Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Masirika.
À la une de l'actualité, commémoration ce mercredi de la Journée internationale des droits de la femme. En RDC, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a plaidé pour l'avènement d'une société où les discriminations basées sur le genre n'auraient pas de cité. Nouveaux affrontements aujourd'hui entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise à Kirutché dans les territoires de Masisi au nord Kivu. Ces affrontements ont jeté sur les routes de Minova et de Bweremana des nombreux habitants de la zone. Notre invité, c'est le président de la ZADO, Jean-Claude Katende, affirme que 4 ONG soutiennent les conclusions de l'Inspection Générale des Finances sur les contrats passés entre certaines entreprises chinoises et la RDC, un contrat qui a fait perdre à l'État congolais beaucoup d'argent. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est aujourd'hui la Journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu cette année 2023 est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. En RDC, la journée d'aujourd'hui est placée sous les thèmes éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. Ici à Kinshasa, des centaines de femmes se sont retrouvées au Palais du Peuple. Sur place, le président Félix Tshisekedi a plaidé pour l'avènement d'une société où les discriminations basées sur le genre n'auront plus droit de cité. On l'écoute.
En effet, bien que reconnaissant et saluant le rôle de la femme dans la stabilisation et la conduite de la cellule familiale en prolongement de celui dévolu par l'école, pierre angulaire de la pérennisation et du progrès de nos sociétés, les jeunes filles et les femmes ont trop souvent été reléguées à un rôle secondaire au sein des familles, qui se traduit notamment par la réduction, voire l'annihilation de toutes les perspectives d'avenir et d'émancipation, leur offertes pourtant au nom de principes archaïques et rétrogrades qui ont malheureusement consacré et circonscrit au seul champ de l'homme les activités extérieures les plus nobles ou les plus libératrices. Comme vous le savez, ces attitudes et croyances ont la particularité de se montrer résilientes et consacrent indûment l'inégalité et l'exploitation de la femme. Il nous revient donc de rompre avec cette culture d'indignité et d'ouvrir les horizons d'une société paritaire et égalitaire, notamment l'accès des filles, jeunes filles et femmes à l'éducation, tout en n'omettant pas de veiller au renforcement de leurs droits fondamentaux, condition sine qua non pour aboutir à l'avènement d'une société où les disparités et autres discriminations basées sur le genre n'auront plus droit de cité.
La province du Nord-Ubangi a également célébré aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes. Des femmes centrafricaines réfugiées à Inke et à Nzakala ont été associées aux manifestations tenues aujourd'hui à Gbadolité, d'où nous appelle Daniel Tambizoni.
Elles se sont toutes donné rendez-vous à la place de l'unité de Gbadolité, les femmes des partis politiques, les femmes des différentes associations, étudiantes, élèves et femmes paysannes pour la circonstance. Sous le rythme de la fanfare, elles ont traversé le boulevard Mobutu pour se rendre au complexe motel Nzekele. Devant le vice-gouverneur de province, les institutions provinciales, les ONG nationales et internationales, les agences du système des Nations Unies, dont UNICEF et UNHCR, le thème de la journée est expliqué aux femmes. Madame Hope Dewa, chef de travaux à ISP Molegbe, parle des outils mis en place pour renforcer l'éducation numérique de la femme et de la jeune fille.
Nous avions 3 centres de formation ici à Guado, les salles INES à l'Institut Mobutu, il y a un centre au lycée technique ainsi qu'au collège présidentiel, il y a aussi un centre, la formation elle est gratuite.
Les femmes réfugiées centrafricaines étaient aussi conviées à cette célébration. Madame Marie-Jeanne Matoko ne cache pas sa satisfaction.
J'ai pratiqué mes études sur le sol congolais et c'est ma première fois de participer.
Ça vous manque la République centrafricaine ou au Congo vous vous sentez comme chez vous?
Ce qui est plus que nous sommes en train de se sentir que nous sommes chez nous parce que nous sommes ensemble avec les Congolais et avec nous les centrafricains et nous prenons de l'eau ensemble, dans les hôpitaux ensemble, dans les eaux ensemble.
Tout se passe très bien.
Ok.
De Gbadolité, Daniel Tambizoni, Radio Okapi.
Et puis les femmes de Bukavu réclament la fin de la guerre dans le Kivu et demandent au président Félix Tshisekedi Tshilombo de rétablir l'intégrité territoriale de la RDC. Ces requêtes ont été formulées aujourd'hui à l'issue d'une marche pacifique organisée dans la ville. Reportage à Bukavu d'Emmanuel Elmejo Kabedi.
Elles étaient de dizaines et des milliers dans les rues de Bukavu ce mercredi 8 mars 2023. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, commerçantes et jeunes filles ont marché pour célébrer la journée dédiée aux droits de la femme. Les femmes du sud de Kivu disent être fatiguées à subir des conséquences de guerre à répétition.
Les femmes du sud qui vous demandent au chef de l'État, en tant que garant de la nation, de pouvoir nous aider tous ces moyens afin de restaurer l'intégrité territoriale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, d'encourager la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle et de réconciliation, en l'occurrence l'Est de la RDC qui a subi des crimes commis à grande échelle. Les efforts des femmes au niveau communautaire sont anéantis par des guerres et des conflits armés à répétition et qui traînent à trouver des solutions. La femme de l'Est les lasse de se lancer des cris de détresse à la communauté internationale, d'appuyer sur le bouton pour stopper cette guerre économique et injuste. Il n'a que trop duré.
Ce mémorandum a été remis au gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malaboka Chekere, pour transmission au chef de l'État. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Restons à Bukavu où le docteur Denis Mukwege invite les autorités congolaises à associer les femmes aux démarches visant à restaurer et à consolider la paix conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et au regard de la persistance des conflits armés dans l'est du pays, le prix Nobel de la paix pense que le 8 mars est une journée de deuil et non de fête. Dans son message, il a invité les femmes à s'habiller en noir. Pour en parler, retrouvons à Bukavu
Pour le docteur Denis Mukwege, les femmes sont encore considérées comme des citoyennes de seconde zone et c'est elles qui payent le lourd tribut de la violence armée dans l'est du pays. C'est ainsi qu'il invite les femmes à réclamer plus de sanctions contre l'agresseur indexé, mais surtout à se prendre en charge, surtout dans le contexte électoral actuel. Pour changer de paradigme, les femmes, selon docteur Mukwege, doivent se mobiliser pour participer en masse à tous les scrutins à venir. Une chose qui permettra d'avancer vers la parité dans les institutions de la République et favoriser la pleine participation des femmes à toutes les questions de vie publique. Toujours au regard des enjeux électoraux pour cette année, Denis Mukwege demande aussi aux femmes de s'organiser pour l'observation des élections à tous les niveaux et à devenir les sentinelles de la démocratie. Cynthia Bachizi, Bukavu. Radio Kapi.
En Ituri, pendant ces temps, les associations féminines jouent un grand rôle dans la résolution des conflits, propos tenus aujourd'hui par le chef de bureau de la MONUSCO. Karna Soro a rappelé que des femmes ont contribué récemment à la libération des otages. Il a assuré que la MONUSCO va continuer à soutenir les initiatives des femmes pour améliorer leurs droits. Il est au micro de Jean-Claude Lokidile.
Ici en Ituri particulièrement, on voit combien les femmes s'investissent dans la paix. Tout à l'heure, vous avez parlé des dialogues. Les femmes font partie des segments de la société qui facilitent les discussions pour que les gens se parlent. Dernièrement, nous avons eu une certaine série de crises. Nous avons eu des prises d'otages de la part d'un certain nombre de groupes armés. Ce sont des associations de femmes qui ont travaillé à la libération de ces otages-là. Nous allons continuer, en ce qui nous concerne MONUSCO, à travailler avec elles. Nous allons continuer à nous assurer, à faire le plaidoyer dans les communautés, que ce soit pour la scolarisation des jeunes filles, que ce soit pour la prise en compte de la parole des femmes, que ce soit aussi leur participation à l'espace politique, à l'espace décisionnel. Nous allons continuer à appuyer donc les femmes pour qu'elles puissent vraiment contribuer de façon plus effective encore à la pacification totale et définitive de cette société.
Au Nord Kivu, le mouvement féminin dénommé « Rien sans les femmes » se réjouit de la résilience dont fait preuve actuellement la femme de Beni malgré l'insécurité. Ce mouvement féminin encourage les femmes à garder espoir. Des précisions avec l'une des dirigeantes de cette association féminine, Chamla Kikwaso, s'est confiée à Marc Marofimo.
La femme, elle a déjà compris. Je vais illustrer tout ça par un exemple. Vous voyez récemment ici qu'on a brûlé le marché de Mayango. Nous pouvons dire presque 50-100 femmes ont perdu leurs capitaux au niveau de ces marchés. Mais si vous y arrivez aujourd'hui, vous allez vous demander, est-ce vrai si ces marchés qu'on a brûlés ou pas? Les femmes de Ben sont résilientes parce qu'elles ont déjà compris, elles ne savent pas si quel jour la paix reviendra à Ben, mais elles sont là, elles ont de l'espoir. Je dirais que c'est grâce à cet espoir-là que les femmes de Ben sont entrées de faire bien que mal, d'essayer de prier en faisant des sensibilisations, en menant des plaidoyers, en organisant des dialogues, des médiations. Et on ne sait pas si c'est aujourd'hui ou demain que la paix nous reviendra. Et la femme est en train d'essayer de prier bien que mal à ces différents niveaux.
À Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, les femmes valorisatrices des déchets, des scieries, produisent une braise spéciale dénommée Makala Vert. La matière première est constituée des déchets de bois provenant d'une scierie de la place. Objectif affiché, lutter contre la dégradation des forêts. Ce projet est appuyé par le Centre de Recherche Forestière Internationale. Les avantages de ce projet avec vous, Billy Van Lutumba, notre envoyé spécial à la deuxième conférence internationale sur la biodiversité dans le bassin du Congo.
Il s'agit d'une vingtaine de femmes résidant au point kilométrique 8 de Kisangani sur la route de l'aéroport. Elles sont productrices du makala vert. Georges Mumbere, expert junior à Sifor, explique.
La CFT, au lieu de mettre le feu sur les déchets, était d'accord avec nous de libérer ces déchets auprès des femmes afin que les femmes puissent les transformer en charbon de bois. Les femmes ne partent pas en forêt justement pour couper afin de contribuer à la dégradation, non. Mais par contre, ces femmes transforment les déchets des scieries qui a extrait ces arbres selon les normes environnementales et qui sont acceptables par le gouvernement congolais.
Maman Fatouma Myriam est coordonnatrice de ces femmes valorisatrices.
Déchets à bois des chauffes.
Ces déchets, on achète à 90 000 francs et ils les livrent où se trouve le four fixe. Ça nous prend 3 jours ou 4, et puis après, le makala est prêt et on le ressort. Et on peut en produire 8 à 9 sacs. Par mois, nous pouvons produire jusqu'à 100 sacs de makala. Et le bénéfice est de 400 à 500 000 francs congolais.
Sur le plan de la conservation des forêts du bassin du Congo, Georges Mumbele révèle que...
Et donc, les ménages s'approvisionnent maintenant avec le charbon vert, qui est ici des déchets des scieries. Et par conséquent, cela réduit la dépendance des ménages envers les autres producteurs de charbon de bois qui coupent la forêt naturelle.
Le vœu de cette association féminine est que d'autres entreprises s'ajoutent pour éviter plus tard une rupture d'approvisionnement en déchets de bois.
L'actualité en plus bref au Nord Kivu, c'est aussi ces affrontements survenus ce mercredi entre les FRDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise sur les collines surplombant le village de Kiruche dans le territoire de Masisi, situé à environ 10 km à l'ouest de la cité de Sake. Selon les sources locales, ces affrontements ont poussé les habitants de Kiruche et de Chacha à se déplacer vers Minova et Buremana. D'autres accrochages sont signalés sur l'axe Mabenga-Rui. Des corps sans vie ont été encore découverts à différents endroits de la ville de Lubumbashi. Suite à ce drame, en effet, la police nationale congolaise sollicite la collaboration des habitants de la ville pour mettre hors d'état de nuire les tueurs qui sèment terreur et désolation dans la ville de Lubumbashi. Jean Ganduka Bongo.
Le dernier cas remonte à ce mardi où 3 corps ont été découverts dans la commune annexe, notamment sur l'avenue Cosmos. 2 corps sans vie étaient enfouis dans un sac de couleur blanche et frappé d'une bande rouge au milieu. Ce cas vient allonger la longue liste de victimes dont le mode opératoire de leur bourreau est quasiment le même. Les personnes tuées sont souvent mises dans le sac de même couleur, ce qui fait penser à un réseau bien organisé, indique la police. Pour cette dernière, pour mettre fin à ces pratiques qui créent la désolation, la population doit respecter certaines consignes, comme l'indique le porte-parole de la police dans le Haut-Katanga, le major Charles Esperanto Binluamba.
Avant de prendre place à bord d'un taxi express, prendre soin de prélever les matériaux du taxi et de l'envoyer directement à vos proches tout en signalant l'itinéraire. Informer les cas de base de tout mouvement des personnes habitant les quartiers.
Notons qu'un jour avant cette découverte, 26 présumés bandits étaient présentés par le responsable de la police au gouverneur de province. Parmi eux, 5 membres de ce réseau qui seraient passés aux aveux et ils avaient sur eux une arme AK-47, 5 chargeurs et 58 munitions. Le gouverneur Jacques Kiamboula a salué ce joli coup de filet et sollicité une fois de plus la collaboration de la population pour barrer la route à ces hommes qui endeuillent de nombreuses familles. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, les femmes qui travailleraient actuellement dans l'agriculture ont recours à des travaux exténuants pour pallier les années de sécheresse qui les empêchent de cultiver convenablement. Cette conséquence du changement climatique qui plonge des familles rurales dans la pauvreté et la faim a amené certaines femmes à travailler dans les carrières minières. Le groupe paramilitaire russe Wagner revendique aujourd'hui la prise de l'est de Bakhmout, épicentre des combats sanglants depuis plusieurs mois et dont la chute laisserait la voie libre à l'armée russe pour avancer vers l'est de l'Ukraine, selon le président Volodymyr Zelensky. Pour sa part, le secrétaire général de l'OTAN redoute la chute de la ville de Bakhmout dans les prochaines heures. En Grèce, des violences entre policiers et manifestants ont de nouveau éclaté aujourd'hui après-midi, alors que la colère s'étend après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts. Plus de 65 000 personnes ont crié aujourd'hui leur indignation lors d'une journée de protestation marquée par une grève générale dans les secteurs publics et privés. Les grévistes affirment que la crise fait suite notamment à des années de négligence et des sous-investissements. Ils réclament par conséquent la démission du gouvernement.
L'invité.
Notre invité, c'est le président national de la ZADO, Jean-Claude Katende, affirme que quatre ONG, dont la sienne, la CAJ, l'ODEP et le REGED, soutiennent l'inspection générale des finances au sujet de ses conclusions sur le contrat passé entre certaines entreprises chinoises et la RDC. Il affirme que ce contrat a fait perdre à l'État congolais beaucoup d'argent. Il s'entretient avec Jean Ganduka Bongo.
Jean-Claude Katende, bonjour.
Bonjour.
Sur quoi vous êtes-vous basé pour apporter votre soutien à l'IGF?
Les conclusions auxquelles l'IGF a abouti sont proches du travail qui avait déjà été fait précédemment par la société civile, mais aussi par l'initiative de transparence des industries extractives en République démocratique du Congo. Sur cette base, nos quatre organisations ont estimé qu'on pouvait apporter notre soutien à l'inspection générale des finances pour que, d'une part, les autorités congolaises soient interpellées en rapport avec tout ce que nous avons appris de ce rapport, et d'autre part que la justice congolaise puisse revérifier et enquêter sur les contrats chinois pour qu'on arrive à établir les responsabilités, surtout que les éléments en notre possession ont montré que ce contrat a plus profité au groupe des entreprises chinoises qu'à la République démocratique du Congo. Et dans ce contexte, nous pensons que nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous appellerons ici les crimes véritablement économique.
Nous savons qu'il y a également un groupe d'experts de la société civile qui n'a pas été d'accord avec les conclusions de l'IGF. Comment démarquer les deux tendances?
Je pense qu'il faut d'abord se poser la question sur la tendance qui n'approuve pas le rapport de l'IGF. Est-ce qu'elle a déjà travaillé sur les questions minières? Et en tant que tel, nous avions travaillé sur le contrat chinois et un rapport est disponible sur le site de l'ITI avant même que l'IGF ne se soit intéressé à cette question. Maintenant, quand nous comparons les deux rapports, nous estimons que les conclusions sont proches, mais l'avantage que l'IGF a eu, c'est d'être une institution chargée de faire ce genre d'audit auprès des entreprises publiques ou auprès des entreprises privées dans lesquelles la République démocratique du Congo a investi de l'argent public. Donc, de notre côté, nous estimons que pour avoir déjà travaillé sur la question, nous pouvons comparer les conclusions des litiers et des autres experts sur la question pour aboutir à la conclusion que ce travail qui a été fait par l'IGF, c'est un travail objectif, un travail qui nécessite le soutien non seulement des populations congolaises, mais aussi des autorités qui ont laissé l'IGF faire ce travail. Et encore plus, c'est là que nous avons sollicité l'implication de la justice pour établir les responsabilités. Au lieu qu'on demande qu'on ne prenne pas en compte le rapport de l'IGF, nous nous demandons qu'on s'en serve et que d'une manière indépendante, la justice puisse faire son travail. Donc, en ce qui concerne ce contrat, je pense que la CAJ, la ZADO, l'ODEP et le REGED ont une expérience avérée dans cette question que les autres.
Est-ce que les chiffres tels que donnés par l'IGF concordent avec les chiffres que vous aviez aussi rassemblés lors de vos différentes enquêtes?
Il est établi par tous les deux rapports qu'il y a eu un désavantage pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne les revenus générés par ce partenariat. Une autre constance, c'est en termes de questions qui ont été du respect même de la Convention. On va se rendre compte que la République démocratique du Congo, pour une raison ou une autre, a laisser les Chinois conduire ce partenariat comme s'ils en étaient les seuls maîtres. Un autre élément important qu'il faut souligner, c'est la conclusion à laquelle tous les deux rapports sont arrivés de dire qu'il est important que la République démocratique du Congo et le groupe des entreprises chinoises se mettent autour de la table pour renégocier ce contrat afin que la République démocratique du Congo se retrouve. Nous sommes allés très loin pour dire que à ce jour, si cette possibilité de renégocier n'est pas possible, il faut que la République démocratique du Congo puisse nationaliser la Sicomine. Depuis la mise en activité de cette entreprise, à ce jour, les Chinois ont déjà touché 9 milliards de dollars et que la République démocratique du Congo n'a touché que 822 millions. Vous pouvez vous-même établir qu'il y a un désavantage et qu'il faut absolument y mettre fin.
Jean-Claude Katende, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président national de la ZADO, Jean-Claude Katende, était interviewé à Lubumbashi par Jean-Gandou Kabongo. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Pelé Kipelamondo qui m'a accompagné.